فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قوله تعالى في كتابه الكريم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله سبحانه وتعالى يقول أو قال في كتابه الكريم: sont-ils au même niveau ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Méditez, barakallahu fikum, sur ce verset. Méditez, barakallahu fikum, في هذه الآية المباركة التي قال فيها جل وعلا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Sont-ils au même niveau ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Wallahu al-musta'an. Méditons sur ce verset avant de commencer notre cours. Regardez tout le char et tout le mal que l'ignorance apporte sur la terre. Kama dhakara ba'd al-ulama aw ba'd as-salaf, salaf afwan. سبب كل شر في الكون الجهل. La cause de tout le mal dans ce monde, c'est l'ignorance. كما ذكر ابن القيم رحمه الله أيضا الجهل ضاء أو داء قاتل. L'ignorance est une maladie mortelle. رأينا سابقا أو آنفا أن الجهل أن القتل المذكور في هذا الكلام هو موت القلب. C'est la mort du cœur. L'ignorance tue, est une maladie mortelle, la mort du cœur. Alors, à partir du moment où on prend conscience de ces choses-là et on essaye beaucoup, beaucoup, beaucoup à notre institut et votre institut de sensibiliser au maximum à vraiment de se débarrasser de l'ignorance, et de se parer que ça devienne vraiment un habit, une deuxième peau, la science. la science. Al-ilmu nurun. La science, comme le ذكر بعض العلماء, ou Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim, la science, min al-dhulumat ila al-nur, des ténèbres à la lumière. La science est une lumière. Dans les ténèbres de cette dunya, de cette vie d'ici-bas, où l'ignorance, la désobéissance et l'association, la mécréance et tout ce qui tourne autour est vraiment propagé sur la terre. Notre médicament, c'est la science. Alors, on a cité un fondement très important depuis le début, c'est qu'il faut tirer profit. Alors là, on dit même plus des erreurs. À la base, c'est des erreurs, mais là, c'est comme du malheur des autres, de la décadence des autres, de l'ignorance des autres, de la déviance des autres, de l'insouciance des autres. Il faut en tirer profit. Et comment on tire profit? En se consacrant aux sciences religieuses. Wallahi, wallahi, thumma wallah, wallah, wa tallah, wa billah. Trois formes de serment mentionnées dans le Coran pour jurer par Allah. Que celui qui a tout compris, celui qui a tout compris et qui justement se sert, du moins, il tire profit de tout ce qu'on a dit concernant les autres, leur égarement, leur déviance, leur décadence, leur déchéance. Et des anses, on peut en citer. Celui qui a compris, eh bien écoutez, on va le dire en une phrase et on va commencer notre cours à la suite. En une phrase, si tu veux comprendre et si tu as compris, à l'heure où les gens se consacrent aux polémiques, se consacrent à la médisance, se consacrent au colportage, se consacrent à entrer dans l'honneur des musulmans, se consacre à l'ignorance, à la décadence, à la déchéance, à la déviance. Toi, ô étudiant, étudiante, consacre-toi à la science, à la recherche de la science religieuse. En une phrase. هذا هو الذي أرشدنا الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وأئمة من أهل السنة والجماعة قادما وسلفا. أطلب العلم ولا تبالي مِمَّا يَحْصُلُ بَيْنَ الْجُهَالِ وَعَمَّةِ النَّاسِ. Comme l'ont dit les anciens, comme l'ont dit les contemporains, comme l'ont dit les savants de la sunna. Concentre-toi à la recherche de la science et délaisse la perte de temps avec les ignorants ou les gens de la masse. هذا هو الحق. وماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ Que nous a recommandé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt que nous a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi hadihi dunya kulli shay'in mal'un, dans cette vie d'ici-bas, tout est maudit. Illa dhikrullah, sauf le rappel d'Allah, wal 'alim wal muta'alim, et le savant et l'apprenti en sciences religieuses, l'étudiant. Alors, où est notre place? Où est notre place? Dans le rappel d'Allah? Où est notre place? À écouter les savants? Où est notre place? À être étudiant? Si tu n'es pas dans le rappel d'Allah, tu dévies de la recommandation de notre messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc forcément, tu es dans quoi? Alors, ou bien tu seras dans la futilité, parce que tout n'est pas haram, mais il y a des choses qui ne sont pas haram, mais ça peut être futile, tu seras dans la perte de temps. C'est au mieux. Au mieux. Et au pire, tu seras dans le haram. Au pire, tu seras dans l'illicite. Wallahu musta'an, nas'alallahu al-'afiya. Donc, il y en a qui n'ont pas compris ça, et ils passent leur temps avec ça. Avec, voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je m'excuse. L'étudiant, il n'a pas de temps à perdre. Il n'a pas de temps à perdre. Et ça, on l'a dit quand on a ouvert l'institut, on vous a parlé de ça. On vous a dit que quand on était à l'institut de Cheikh Mokbel, toutes les fitnas, les problèmes, les polémiques, les cheyoukhs là-bas, ils nous disaient, vous occupez pas de ça. Étudiez, apprends la science. Tout ça, c'est pour te faire sortir du rappel d'Allah, pour te tirer. Il y en a, ils veulent te tirer, te faire tomber dans la biyara. Qui sait ce que ça veut dire en arabe, la biyara? C'est pas du joli, hein. Qui pourra nous dire en arabe qu'est-ce que ça veut dire? Il veut te faire tomber dans la biyara. Il veut te faire tomber dans les égouts. Mais lorsque je dis égout, c'est, vous savez, le comment on dit en français, les égouts, mais c'est pas propre. Najasa, l'urine, les égouts. Il veut te faire tomber dans les égouts. Il veut te tirer, te faire tomber dans les égouts. Alors, saleté, si on veut dire le sens en général, mais le biyara, en arabe, c'est... au Yémen, on disait le biyara, c'était un genre de petite rivière où tous les égouts, parce que là-bas, c'est pas comme en France, ils n'ont pas des machines pour aspirer, donc ça fait un genre de grand fossé avec la biyara. Les égouts, hein, ça vient laisser les toilettes, en fait. Donc voilà. On veut te faire tomber dans les égouts. Est-ce que toi, tu vas tomber dans le piège? Ou est-ce que tu vas rester dans le rappel? Voilà. Taïb, nous nous retrouvons aujourd'hui, une fois de plus, pour un nouveau cours concernant le firqa. Alors nous tenons à vous rappeler que dans le prochain cours, inshallah ta'ala, soyez prêts, on commencera Zayd al-Mustaqna de notre cheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Voilà. C'est ça, Allah ibarak, et on demande à Allah, faites des invocations, faites des duas, pour qu'Allah il nous donne la continuité dans ce qu'on fait. L'institut, les doros. Là, on est dans le khair. C'est ça le khair. Mais si demain, on abandonne ça et on se met à faire du reiba, des vidéos, des parler sur les autres, nos frères, les menacer, tout ça et tout, c'est qu'on a, on a dévié du chemin droit. C'est une punition pour nous. Sachez-le bien. Sachez-le bien. Il n'y a aucun doute sur ça. C'est où tu es dans le rappel d'Allah, ou tu es dans autre chose qui n'est pas dans le rappel d'Allah. Et on vient de le dire, une faïda pour vous, lorsque tu n'es pas dans le rappel d'Allah, tu peux être dans quelque chose qui est permis, mais perte de temps, t'as rien à gagner, que de la dunya. Ou alors, t'es dans le haram, à parler sur les autres, à faire des polémiques, à provoquer les autres, à ceci, à cela. On n'a pas le temps, nous. Nous, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Celui qui a le temps, ou celui qui croit ces gens-là, ou celui qui marche dans le chemin de ces gens-là, ben, c'est qu'il est comme lui. C'est qu'il est comme ces gens-là. Wallahu a'lam. Tamam. Alors, subhanallah, on va la trouver, cette page. Voilà. Alors aujourd'hui, on entame, inshallah ou ta'ala, la dernière biographie. J'espère, inshallah, que tous les élèves ont bien compris. C'est très important. Ne vous faites pas tirer. On l'a dit, on n'arrête pas. Chaque cours, chaque... Allah ta'ala, il vous a donné cette faveur. On a expliqué les deux faveurs. Vous êtes dans un chemin de talibul ilm. Première faveur. La deuxième, Allah, il vous veut du bien parce qu'il vous a, il vous fait comprendre, il vous a mis sur un chemin de compréhension de la religion. Alors, il y a des gens de toutes sortes, humains, djinns, animaux, tout ce que vous voulez, ils seront envoyés pour vous détourner. Et là, comme le dit Allah Ta'ala dans le Coran, on les à peu près dans ce sens, hein. On les éprouve pour savoir qui sont les véridiques et qui sont les hypocrites. Alors je pense que le message il est clair, hein. On ne peut plus clair. Vous êtes dans une bulle là, une bulle de ni'ma. Wallahi. Restez-y, ne vous faites pas tirer. Moi j'ai pas le temps, je suis un étudiant. Je prépare mon au-delà, j'ai une famille, j'ai pas le temps avec les gamins de je ne sais quel âge, ou les gamines de je ne sais quel âge qui... Alors là, comprenez bien, le terme gamin, il est approprié à la situation, pas à l'âge. Là, je ne mentionne pas l'âge. Lorsque je dis gamin, c'est gamin dans la tête. Les gens qui ont un certain âge ont un certain recul, plutôt les gens qui ont un certain recul et qui ont une certaine sagesse et qui ne tombent pas dans ce genre de choses, on ne dit pas que ce sont des gamins, même s'ils ont 20 ans. Et il y en a. On peut dire de quelqu'un qui a 50 ans, tu es un gamin. Naham. Naham, on peut le dire. Wallahu. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va commencer la biographie de notre Cheikh l'imam, hein, l'imam c'est plus haut que Cheikh, Wallahu A'lam, imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, tout en sachant que cet imam n'est pas n'importe qui, on a une spécificité par rapport à cet imam du fait que nous on va étudier selon, dans un premier temps à l'institut, on va étudier selon le madhhab de l'imam Ahmed. Tayyib. Donc sa biographie, elle est courte, hein. Elle est courte. Ma fi mushkil. J'avais même pas remarqué pour vous dire. Mais il n'y a pas de souci. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Tayyib. Rappelez-vous bien. Rappelez-vous bien, c'est la parole d'Allah. Sont-ils au même niveau ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Oh. Comme l'avait dit un sahabi, je vous dis, le prophète a dit, et vous me dites, Omar et Abu Bakr ont dit. Bah, si on te dit, Cheikh, un tel a dit, ne nous dis pas, un tel qui n'a aucun rapport avec la science, si ce n'est la prétention, a dit. C'est une forme d'ignorance, ça aussi. C'est une forme d'ignorance. Malheureusement, dans la communauté, on baigne beaucoup dans l'ignorance et c'est malheureux. Tamam. Alors, l'imam Ahmed, rahimahullah, huwa, donc lui, Abu Abdillah, Ahmed ibn Muhammad, ibn Hanbal, ibn Hilal, ibn Asad, al-Mazni, ثم شيباني ثم ذهلي ثم ربيعي ثم نزاري ثم عدناني. Ça c'est comme si on disait l'arbre généalogique des tribus, hein, des peuples dont il fait partie. Pourquoi? Parce qu'il fait partie d'une il faisait partie d'une tribu qui s'appelle Shayban, hein. Qui était une tribu connue dans l'époque pré-islamique. Pré-islamique. Tayyib. D'accord. Alors, l'imam Ahmed, il s'est fait connaître, dans un premier temps, par rapport à qui? Par rapport à son grand-père. L'imam Ahmed, il s'est fait connaître dans un premier temps par rapport à son grand-père. Parce que son grand-père, on disait, son grand-père, il s'appelait l'imam Ahmed ibn Hanbal. Son grand-père aussi, il s'appelait l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc il est apparu que son grand-père, il était connu également sous Al-Hanbal. D'accord? Makana. Son grand-père, donc, il avait un rang assez élevé auprès des gens. Il était un savant, hein, son grand-père. فلعله تكني بأبي عبد الله قبل أن يتزوج. طيب. Concernant la naissance et la mort de notre cheikh, de notre imam, l'imam Ahmed rahimahullah, donc, dans un premier temps, on nous parle de sa mère. Donc sa mère qui était enceinte de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed qui est né Walada fi Baghdad. Il est né à Bagdad, donc en Irak. Tayyib. Il est donc né en Irak en 164 de l'Hégire. 164 de l'Hégire, et il est mort à Bagdad. Baghdad en arabe. Baghdad. Tamam. Donc il est mort un vendredi, le mois de Rabi' al-Awwal, en 241. En l'an 241. Il a été lavé, la prière mortuaire a été faite sur lui, il a été enterré. Le même jour, le jour de sa mort. Lorsqu'il est mort, il avait 77 ans. Imam Ahmed. Plus 11 mois, etc. Sa maman. Donc sa maman, la maman de l'imam Ahmed, qui s'appelait Sophia. Alors, 2 petites secondes. Sa maman, hein, Sophia. Alors, Ummuhu, Safia bint Maymouna al-Shaybaniya, la fille de Maymouna de la même tribu, Shaybaniya. Donc, on nous dit que c'était une maman bénie, une mère bénie. Donc, sa maman, elle a également été une cause hein, pour l'imam Ahmed, c'est-à-dire que elle n'a pas opposé de elle n'a pas opposé de elle n'a pas été contre que le fait que son mari lui dise qu'ils allaient partir plutôt qu'ils allaient partir dans un endroit de science entouré de savants. À Bagdad, à Bagdad, si vous préférez, en arabe, Darul Ilm, c'est-à-dire la demeure scientifique de la science. Alors, il faut savoir que l'imam Ahmed, rahimahullah, il a eu plusieurs femmes. Taïb. La première, Abbasa bint Fadl, ou Fadil. La première qui s'appelait Abbasa, il s'est marié avec elle alors qu'il avait 40 ans. Il est resté avec elle 30 ans. Puis quand elle est morte, il a pris une deuxième femme, plutôt une deuxième dans le sens après celle-ci, il a pris une autre femme, mais ici on nous dit la deuxième, hein, qui s'appelait Raihana, subhanallah. C'est un joli nom, hein, joli prénom. Une des femmes du prophète, il me semble, ou servante du prophète, Raihana. C'est une petite fille qui s'appelle Raihana, hein, fille de Omar ibn Hanbal, ibnat ammuh, ça veut dire que c'était sa cousine. Elle s'appelait Omar Abdillah, c'était la fille de son oncle. La descendance de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, il a eu 10 enfants. Allah Ibarak, 10 enfants. 8 garçons et 2 filles. Alors, les noms, on nous dit Zuhir. Al-Hassan, wa Hussein, wa Al-Hassan, wa Mohammed, wa Saïd, wa Zainab, wa Fatima, min jawarihihi, rahimahullah. Alors, l'imam Ahmed, il s'est fait remarquer, il s'est fait connaître par son engouement très très fort pour l'apprentissage de la science et son aspiration à la science. Lorsqu'il était tout petit, il s'est démarqué des autres déjà dans la piété, dans sa manière de s'adresser, de s'exprimer, dans sa manière de décrire, déjà en étant tout petit, en étant jeune, hein, en étant jeune déjà. Donc, comme vous le savez, hein. On remarquait à l'époque déjà un futur grand savant. Dès qu'ils étaient petits, on les remarquait déjà. Comme l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, hein, il avait été remarqué déjà quand il était petit déjà par rapport à ses capacités de mémorisation, d'apprentissage, de perception, de... Allahu Akbar. D'accord? Alors, on nous dit parmi les caractéristiques de l'imam Ahmed, c'est que il apparaissait pas beaucoup sur lui le bling-bling, c'est si vous voulez hein, la dunya. Il n'était pas du tout attaché à la dunya. Dans sa manière de s'exprimer, on ne voyait pas du tout chez lui un attachement à la dunya. Il n'y avait pas du tout d'attachement à la vie mondaine concernant l'imam Ahmed. Hein. Donc, également, il ne tendait pas la main, il ne demandait pas aux autres. On nous dit, il ne demandait pas aux autres ni à titre individuel et ni au sultan. Il ne prenait pas l'aide des gouverneurs. On parle de l'aide financière. Il ne prenait pas. Il a commencé la recherche du hadith. La science du hadith à la mort de l'imam Malik en 179 de l'Hégire. Alors, à savoir, alors pour vous dire, même moi personnellement, quand j'entends ça, je me sens tout petit et j'ai honte. Wallahi, j'ai honte. L'imam Ahmed, écoutez bien. L'imam Ahmed, deux petites secondes, je retrouve le chiffre. L'imam Ahmed, approximativement, il a étudié chez 280 chouyours. On peut aller se cacher, hein. On peut aller se cacher. بدأ في تعليم الحديث سنة وفاة إمام مالك 179 وأول من كتبه عنه هو أبو يوسف وله شيوخ كثير بلغوا في كتاب المسند 280 شيخا ومن أبرازهم طيب Alors, sur les doigts de la main, ces chouïoukhs les plus connus chez qui il a étudié. Comme vous le savez par déduction, il a étudié chez l'imam Ash-Shafi'i. L'imam Ahmed a étudié chez l'imam Ash-Shafi'i. Ash-Shafi'i. Également, parmi les plus connus, hein, il a étudié chez Al-Hafidh Abu Suhayl Hashim Ibn Bashir Al-Wasiti. Il est resté avec lui de 179 à 183, un grand shir. Ensuite, Shafi'i. L'imam Shafi'i, rahimallah, a dit à propos de l'imam Ahmed. L'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit à propos de l'imam Ahmed, écoutez bien. L'imam Shafi'i a dit à propos de l'imam Ahmed, l'imam Ahmed, c'est un imam dans le hadith, c'est un imam dans le fiqh, c'est un imam dans la langue arabe, c'est un imam dans le Coran, c'est un imam dans la pauvreté, c'est un imam dans l'ascétisme, c'est un imam dans la piété, c'est un imam dans la sunna. Wallahi, une tazkiya et des éloges comme ça, c'est... Oh là 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 là. Moi, si on m'aurait dit, t'es un imam dans un seul... Une seule des... une seule. Alors là... une seule. Wallahu Akbar.
Maintenant, on mentionne les élèves de l'imam Ahmed. Parmi les élèves de l'imam Ahmed, les plus connus, attention, hein, pas tous, hein. Il y a peut-être des fois des élèves, on les connaîtra jamais. On ne saura jamais qu'ils ont été élèves de l'imam Ahmed. Parmi les élèves les plus connus de l'imam Ahmed, l'imam al-Bukhari, l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Abu Daoud, Daoud. Ça, c'est les trois les plus connus, hein. Bukhari, Muslim, Daoud. Les ouvrages, huit rapporteurs de hadith, Bukhari, Muslim, Abu Daoud, les trois rapporteurs, Naram, ils ont été les élèves de l'imam Ahmed, à ce qu'on nous dit. Amma taramidatihi famin ashharihim. Ses ouvrages les plus connus à l'imam Ahmed, on a le Mousned de l'imam Ahmed, ça tout le monde connaît, hein. Le Mousned, c'est un recueil de hadith de l'imam Ahmed, qui est très réputé, hein, qui est très réputé. Fada'il al-Sahaba, alors je vais vous donner la liste, hein. Fada'il al-Sahaba, Ilal wa Ma'rifat al-Rijal, al-Asami, والكني حديث الشعبة التاريخ الزهد الورع الرد على الزنادقة والجهمية كتاب أهل الردة والزنادقة والتارك الصلاة والفرائض ونحو ذلك الإيمان طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الإمامة نفي التشبيه المقدم والمؤخر في القرآن جوابة القرآن الناسخ والمنسوخ رسالة في الصلاة حديث الشيوخ المناسك الكبير المناسك الصغير الفرائد كتاب الأشربة كتاب الوقوف والوصايا أحكام النساء الترجل وغيرها et d'autres et bien d'autres, d'accord. Donc, on a à peu près 26 ouvrages, hein, à peu près, de l'imam Ahmed, rahimahullah. Alors, une chose qu'il est important de savoir faisant partie de la biographie de notre imam, l'imam Ahmed, très important parce que c'est connu, hein, c'est même une des choses, des événements qui ont fait connaître l'imam Ahmed. On nous dit ici, l'imam Ahmed a été testé, il a été éprouvé par le trouble, la fitna, le trouble de la parole. Le Coran est créé. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'imam Ahmed, il y a eu un grand trouble où des innovateurs et des gens ont été propagés que le Coran, il est créé. Donc la parole d'Allah serait créée. L'imam Ahmed a prétendu, en s'appuyant sur le Kitab wa Sunna et autres, le contraire, que le Coran, c'est la parole d'Allah qui n'est pas créée, qui est descendue. Alors l'imam Ahmed, rahimahullah, il a été torturé, il a été emprisonné, il a été fouetté, l'imam Ahmed, pour avoir dit la vérité et ne pas avoir lâché. Il a patienté et patienté jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala lui ait porté secours à la vérité. Ceci est donc la brève, le résumé de la biographie de notre imam, l'imam Ahmed, rahimahullah. Et il y a beaucoup de savants anciens qui ont écrit des livres sur la biographie de l'imam Ahmed. On va en citer quelques-uns. Alors, ce sont carrément des livres individuels, hein, indépendants, sur la biographie de l'imam Ahmed, par des grands savants. Alors, ça avoisine le nombre à peu près d'une quarantaine d'ouvrages sur la biographie de l'imam Ahmed. On a un livre d'Ibnul Jawzi. On a également sur la vie de l'imam Ahmed, hein, la biographie de l'imam Ahmed. Parmi les plus connus, on a aussi la biographie de l'imam al-Dhahabi. Voilà, et bien d'autres, et bien d'autres, et bien d'autres. Alors, concernant les particularités, les spécificités de l'école de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, on nous dit que il y a 5 particularités concernant son école. La première, c'est qu'il se base sur les textes. Les textes. Principalement, il se base sur les textes, à la base, sur les textes. Deuxièmement, il se base sur les fatawas, les avis religieux des sahaba, les compagnons. Troisièmement, si les compagnons ont divergé sur quelque chose, il va se baser, l'imam Ahmed, sur la parole des compagnons qui sont le plus proche du kitab wa sunnah. Quatrièmement, il prend le hadith rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prend également le hadith faible. Cheikh, l'imam Ahmed, il s'argumente également du hadith faible. Tant que ce hadith faible, il n'y a pas quelque chose qui vient l'annuler et que ce hadith, son sens, il est vrai. On a déjà parlé de ça dans les cours, on en reparlera, inshallah. L'imam Mahmed, comme 5e particularité dans son école, c'est qu'il utilise, il se base sur le qiyas, al-qiyas, l'analogie, mais en cas de nécessité, uniquement en cas de nécessité. Si, auprès de l'imam Ahmed, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de parole de compagnon, il n'y a pas de hadith authentique ou faible, alors, dans le cas de force majeure, il utilise l'analogie. On est d'accord? Voici les 5 points principaux concernant les choses sur lesquelles se base l'imam Ahmed pour les fatawas, les avis religieux. Les avis religieux. Sinon, l'imam Ahmed, il s'interdisait à lui-même de faire une fatwa, de donner un avis religieux sur une question où il n'y avait pas de... Il n'y a pas de salaf ou d'imam qui ont parlé sur cette question. Tamam? Donc, Inch'Allah, au ta'ala, concernant la biographie de l'imam Ahmed, on va se contenter de ça. Wa barakallahu fiikum. On a terminé les 4 biographies, les biographies de nos 4 imams, les 4 écoles, hein. Ce sont des petits résumés, hein. Afwan. Et Inch'Allah ta'ala, dans le prochain cours, là on commencera à entrer dans notre ouvrage béni de notre imam Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Alors Sheikh Al-Uthaymin, c'est l'explication, hein. Le maître, c'est pas l'imam Ahmed, c'est pas Sheikh Al-Uthaymin, hein. Le maître, c'est Hijawi. Le maître, un imam parmi les imams de justement de l'école de l'imam Ahmed, et l'explication, ça sera Sheikh Al-Uthaymin. Donc voilà, pour vous informer que dans le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, on commencera le firqa. On a terminé la pré-entrée hein, dans l'entrée, cet ouvrage Matrel, il a Dirasat al-Fiqh, Ilm Dirasat al-Fiqh, entrée dans la science du Fiqh. Voilà, vous avez vos cours, vous avez vos écrits ou là, vos audios. Essayez de bien assimiler tout ça, de bien maîtriser, et comme ça, vous serez capable, Inch'Allah Ta'ala, de le transmettre en temps et en heure. Pour ceux qui ont, qui aspirent à la transmission, vous serez capable de transmettre, Inch'Allah Ta'ala, en temps et en heure. Là, vous avez votre support. Vous avez les cours, par la grâce d'Allah, et on les remercie toutes, celles qui retranscrivent, on les remercie vraiment, et qu'Allah les récompense. Vous aurez également des PDF écrits, subhanallah. Donc voilà, tout vient à nous, la science vient à nous, hein. C'est une nirma. Alors faut en profiter et justement ne pas se fatiguer avec les polémiques de ceux qui n'ont que ça à faire, hein, de perdre leur temps dans la science inutile. Il y a ceux qui gagnent leur temps dans la science utile et à ceux qui perdent leur temps dans les sciences inutiles. L'autre a dit, il m'a dit, j'ai ça sur lui, il a ça sur moi, j'ai dit ça, ils ont dit ça, on va faire ça, j'ai pas l'audio, j'ai l'audio, le chir il a dit, le chir il est comme ça, moi je suis comme ça, moi je dis ça, lui il dit ça. Wallah al-musta'an. Wallah al-musta'an. Wallah al-musta'an. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on se donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le cours, pour ceux qui assisteront au cours, Inch'Allah Ta'ala, le cours de Aqida, de croyance, de dogme. Wa barakallahu fikum, nous vous remercions pour votre présence et votre patience. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم